Chapitre 6. Burton avait dit, juste quand il avait exprimé cette pensée, que les messieurs Carson verraient sans chagrin l'incendie de leur fabrique. Non seulement les machines vieillies avaient besoin d'être refaites d'après le nouveau système, mais encore les affaires étaient lourdes. Les produits s'écoulaient difficilement, encombraient les magasins, et l'on ne faisait travailler que pour entretenir en bon état la mécanique et les hommes, afin de les retrouver au moment où le commerce reprendrait. Cet arrêt forcé d'un travail onéreux était donc un bénéfice de plus, et l'on ne pouvait saisir une meilleure occasion pour renouveler tout le matériel de la manufacture, puisque la compagnie d'assurance devait en faire les frais. Outre cet immense avantage, qui se traduisait en une somme assez ronde, la cessation de travail donnait à M. Carson des loisirs qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, et dont toute leur famille profiterait avec eux. On fit des projets de voyage pour la saison suivante. On irait à Londres, au bain de mer, dans tous les endroits fréquentés par la foule élégante. Et en attendant les beaux jours, ces messieurs jouissaient avec délices d'un intérieur charmant que, toujours pressé par les affaires, ils connaissaient à peine. Il est si doux, après un bon déjeuner, de rester à table au coin du feu, un journal ou une revue à la main, de prêter l'oreille aux gentilles babilles de ravissantes jeunes filles qui vous entourent de leurs soins caressants, et dont vous admirez les progrès avec orgueil, car enfermés chaque jour entre des livres de contes et des balles de coton, vous ignoriez, heureux père, les talents de vos enfants. Que de bonnes soirées, que de promenades agréables, et que les joies de la famille sont précieuses à ces hommes qui peuvent enfin se reposer du tracas des affaires. Mais au revers de cette médaille, que de tristesse et de désespoir, l'incendie de la manufacture Carson et compagnie ne cause-t-il pas chez ceux qui maintenant cherchent en vain du travail et pour qui le loisir est une malédiction. Là, dans ces intérieurs désolés, pour tout concert de famille, le père n'entend que la voix déchirante des enfants qui pleurent, en lui demandant du pain. Près de ces foyers où le feu manque, ce n'est pas à table qu'on reste de longues heures. C'est dans un lit couvert de haillons, où l'on espère avoir moins froid, surtout moins faim, en se tenant immobile. Et plus d'une mère, sortie pour aller acheter de la farine d'avoine, rapporte de l'opium, afin d'engourdir l'enfant qu'elle ne peut rassasier. C'est alors que le bien et le mal, qui sont dans notre nature, se révèlent dans toute leur étendue, que le désespoir blasphème, que l'injure et les paroles de rage tombent des lèvres pâlies, que tous les liens se dénouent et se brisent, qu'on trouve des parents sans entrailles et des enfants sans cœur, mais aussi des exemples de courage que l'on croirait impossibles sur terre, et des cœurs où l'amour est plus puissant que la mort. Parfois nous restons étonnés des vices du pauvre, et Dieu sait quelle excuse est au fond de sa misère. Mais ses vertus, si nous les connaissions, nous surprendraient bien davantage. Le printemps arriva, c'est-à-dire la saison qu'on nomme ainsi, malgré la nudité des champs et le froid souvent plus vif. Les affaires, loin de reprendre, s'alanguissaient de plus en plus. Burton n'avait de travail que quelques heures par jour, et Wilson, employé comme on sait à la fabrique incendiée, en manquait totalement. Jem gagnait assez, il est vrai, pour soutenir la famille, mais il pesait à Wilson de rester si longtemps à la charge de son fils, et le découragement commençait à lui venir. Quant à Burton, plus morose et plus aigri que jamais, il écoutait un soir, à côté de son feu éteint, s'il n'entendait pas revenir Mary, espérant que la présence de sa fille dissiperait sa tristesse. Il faisait un de ces froids noirs que les longues soirées d'avril font paraître plus pénibles. La bise sifflait en passant sous la porte et pénétrait dans la chambre par toutes les fissures de la muraille. Un pas précipité se fit entendre. C'était Wilson, qui entrait tout essoufflé.
« As-tu un peu d'argent, Burton ?»«
Assurément non. Je voudrais bien savoir qui est-ce qui en a aujourd'hui. Tu en as donc besoin ?»«
Ce n'est pas pour moi, qui cependant n'en est guère. Mais tu connais Dan Davenport, qui travaillait chez Carson. Eh bien, il a la fièvre et pas une allumette dans son feu, ni une pomme de terre dans la maison. Que veux-tu que j'y fasse, puisque je n'ai pas le sou moi-même ?»
Wilson avait l'air désappointé. John le voyait bien et tâchait de rester sourd à sa propre émotion, mais n'y parvenait pas en dépit de ses efforts. Il se leva, ouvrit le buffet où il avait mis de côté pour le repas du soir le reste de son dîner, un morceau de pain et la moitié d'une petite tranche de jambon, l'enveloppa de son mouchoir, le plaça dans son chapeau et se retourna vers Wilson.
Partons-nous, lui dit-il.
Et pour aller où? J'ai ce pauvre garçon qui a la fièvre.
Chemin faisant, Wilson raconta que Ben Davenport, un brave homme, bien que trop fervent méthodiste, avait 4 enfants, beaucoup trop jeunes pour travailler, mais non pas pour manger, qu'il avait toujours été de mal en pis depuis l'incendie de la manufacture, et qu'après avoir mis en gage tout ce qu'il avait, il était maintenant sur la paille, au fond d'une cave de la rue de Berry. Burton grommela quelques paroles peu bienveillantes pour une certaine classe d'individus. Et tout en causant, les deux amis atteignirent Berry Street,
voie fangeuse
qui n'avait jamais été pavée et servait de lit à un ruisseau fétide dont les eaux stagnantes, épanchées dans les trous qui parsemaient la rue, y formaient de véritables mares encombrées des immondices et des ordures de toute espèce qu'on y jetait de chaque maison. Des tas de cendres, assez rapprochés les uns des autres, permettaient de franchir tant bien que mal cet ignoble passage. Et c'est en les recherchant avec soin, pour ne pas se mouiller jusqu'à mi-jambe, que nos amis arrivèrent à un mauvais escalier conduisant à une espèce de fosse d'environ 1,5 mètre de large et de plus de 2 mètres de profondeur. C'était sur cette fosse que s'ouvrait et prenait jour l'horrible bouge où des hommes étaient réduits à demeurer. Ils descendirent encore une marche et se trouvèrent dans la cave infecte qui servait d'asile au malheureux Davenport et à toute sa famille. Quand leurs yeux furent habitués à l'obscurité qui régnait dans cette affreuse demeure et que la première impression causée par l'air fétide qu'on y respirait se fut un peu dissipée, ils distinguèrent 3 ou 4 enfants qui se traînaient dans la fange entretenue au fond de ce lieu immonde par l'eau qui suintait des murailles et s'y infiltrait, provenant de l'infâme cloaque qui traversait la rue. On ne voyait pas même de cendre dans l'âtre, et la pauvre mère, assise sur la paille qui servait de litière à son mari, pleurait sans bruit dans l'isolement et les ténèbres.
« Me voilà revenu, mistress, » dit Wilson. « Allons, enfant, taisez-vous, et ne tourmentez pas votre mère pour avoir à manger. Voici Burton, un bon camarade qui apporte du pain. »
Les pauvres petits entourèrent Burton et lui arrachèrent ce qu'il tenait à la main. L'instant d'après, tout avait disparu.
Il faut absolument que nous ayons autre chose. Wilson, reste ici, dit Burton. Je serai de retour avant une demi-heure.
Il courut chez lui en toute hâte, prit tout ce qui restait au fond du pot à farine, en se disant que Mary souperait chez Miss Simmons et n'aurait pas faim jusqu'au lendemain. Puis il monta dans sa chambre, tira du coffre son meilleur habit et son unique foulard. C'était toute sa richesse. Il les porta chez le prêteur, les engagea pour 5 shillings, et ne modéra sa course que quand il fut près de Berry Street. Là, s'arrêtant pour chercher quelques boutiques où il entra, il acheta successivement du pain, de la viande, des copeaux, de la chandelle et du charbon. Quant à l'argent qui lui restait et qui était complètement destiné au Davenport, il se dit qu'on trouverait à l'employer plus tard, et qu'avec du feu, du pain et de la lumière, ils atteindraient facilement ce qui pouvait leur manquer. Les larmes vinrent aux yeux de Wilson quand il vit entrer John, chargé de toutes ses emplettes. Il comprit tout, et souhaita plus que jamais de reprendre son travail afin de contribuer pour sa part au soulagement de la pauvre famille. En attendant, ne possédant que son cœur et sa bonne volonté, les services qu'il rendit n'en furent pas moins inestimables. À côté des enfants affamés, gisait le pauvre père, atteint de la fièvre typhoïde, d'autant plus grave à Manchester qu'elle attaque des hommes épuisés, mal nourris, horriblement pressés dans les quartiers infects, et dont le moral est souvent abattu. Son caractère, éminemment contagieux, ne saurait être mis en doute, mais le pauvre est fataliste à cet égard, et bien lui en prend de ne pas se préoccuper de la contagion, car dans l'étroite demeure qu'il habite avec toute sa famille, le malade ne pourrait être isolé. Aussi Burton se mit-il franchement à rire quand Wilson lui demanda s'il croyait qu'on pût gagner la fièvre. Et sans y penser davantage, l'un des deux amis essaya de faire le feu, tandis que l'autre présentait un peu de nourriture à Mistress Davenport, toujours assise à côté de son mari. Elle prit ce qu'on lui donnait, rompit une bouchée de pain qu'elle porta machinalement à ses lèvres, et ne put pas la manger. Elle avait eu trop faim. Les deux hommes se regardèrent. Et la pauvre femme, qui avait voulu se lever, retomba sur le carreau, complètement évanouie.
« Elle est à moitié morte, » dit Burton. « Elle a jeûné trop longtemps. »«
Écoute, » répondit Wilson, « tu vas rester près d'elle. je vais prendre les trois aînés, qui ne font rien que de se battre. Ma femme les gardera. Ce sera toujours du repos. Et je rapporterai du thé. Ça passera mieux que du pain. »
Burton resta donc seul, entre le pauvre malade, qui, croyant que sa femme était morte, remplissait la cave de ses cris. Un petit enfant qui gémissait en appelant sa mère, et la malheureuse, que le besoin avait fait s'évanouir. Il porta celle-ci près de la cheminée, la coucha devant le feu, et chercha quelque chose sur quoi il put lui appuyer la tête. Il n'y avait littéralement autour de lui que quelques briques détachées du carrelage. Il les ramassa, les mit les unes sur les autres, défit sa veste et les en couvrit de son mieux. Posa sur cet oreiller si dur la tête de la pauvre femme dont il approcha les pieds du feu. Chercha de l'eau et, n'en trouvant pas, prit l'enfant dans ses bras, monta l'escalier, frappa chez la voisine et lui emprunta un poêlon, seul vase qu'elle posséda et qu'il descendit plein d'eau. Puis, avec l'habitude que les pauvres gens ont de tout faire, il mit dans cette eau un peu de la farine d'avoine qu'il avait apportée, en fit une bouillie liquide, et trouvant dans un coin la cuillère qui servait autrefois à l'enfant, seul objet qui n'eût pas été vendu, il fit couler quelques gouttes de cette bouillie entre les dents serrées de la malheureuse, dont la bouche s'entr'ouvrit instinctivement pour en recevoir davantage. Mistress Davenport se ranima peu à peu, mais retrouvant avec la vie le sentiment de sa détresse, elle retomba dans le morne désespoir où Burton l'avait trouvée. L'enfant se traîna vers elle, et de ses petites mains, essuya les larmes qui coulaient sur les joues de sa mère, pendant que Burton prodiguait ses soins au moribond, dont nulle parole ne saurait peindre la hideuse agonie. Sans linge, sur une litière immonde, qu'un chien aurait quittée pour le pavé fangeux, accablé mais non couvert de tous les haillons dont la famille avait pu se dépouiller, et que dans son délire il écartait sans cesse, le malheureux se débattait contre d'affreuses visions où se dressait, dans toute sa nudité, spectre horrible, qu'on eût dit envoyé dans un jour de colère pour annoncer la famine et la peste à une race de maudits, et qui retombait foudroyé sur la couche infecte, où il râlait encore. Wilson rentra. Il tenait à la main une tasse de thé qu'il rapportait pour Mistress Davenport. Mais l'agonisant, dont la soif dévorait les entrailles, se jeta sur le liquide fumant qu'il avala d'un trait. Les deux amis se consultèrent. Il était probable qu'un médecin ne viendrait pas, et il fallait attendre le lendemain pour obtenir un billet d'hôpital. Que faire jusqu'au matin? Burton, qui avait encore un peu d'argent, sortit pour aller chercher quelques drogues et demander un avis au pharmacien le plus rapproché de Berry Street. Il n'en trouva qu'assez loin, dans un autre quartier. C'est un charmant coup d'œil que présentent le soir les rues bien éclairées d'une grande ville, et sous des flots de lumière, l'étalage des boutiques plus brillant que pendant le jour. Ne croit-on pas entrevoir les merveilles dont le récit a charmé notre enfance? Beaux fruits de pourpre et d'or, fleurs merveilleuses, étoffes splendides, pierreries étincelantes. Tous les palais enchantés que l'on a vus en rêve. Burton, transporté tout à coup au milieu de ses richesses, sentait son cœur bondir à la pensée du contraste que formaient ces magasins resplendissants avec l'horrible demeure où l'on râlait dans l'ombre, mystérieux problème qui torture le cœur et l'intelligence, et dont bien d'autres que Burton se posent sans cesse la douloureuse énigme. Il se demandait si parmi cette foule brillante, quelqu'un avait jamais assisté, dans un lieu de pareille désolation, à l'effroyable agonie qu'il venait de voir. Et la colère lui montait jusqu'aux lèvres, quand il regardait ces passants dont le visage lui paraissait joyeux. Hélas! Qui peut savoir le drame intime caché au fond des existences dont le secret nous échappe? Cette jeune fille qui riait en passant auprès de lui, le désespoir dans l'âme, sous la fausse gaieté qu'elle affectait pour s'étourdir, pensait au lit glacé de la rivière comme au seul refuge qui lui resta en ce monde. Tel autre méditait un crime ou succombait à sa douleur. Et Burton lui-même, dans son amertume contre tous les heureux qu'il confondait avec les égoïstes, subissait les tortures que la haine impose à l'homme généreux dont elle s'est emparée. Le pharmacien, après avoir écouté les détails que lui donnait Burton sur l'état de Davenport, en concluant que c'était la fièvre typhoïde, très commune alors dans les quartiers les plus pauvres de la ville, se mit à préparer une potion, complètement innocente il est vrai, mais sans effet possible, contre la terrible maladie qu'il s'agissait de combattre. la préparation terminée, il la remit à celui qui l'attendait. Recommanda surtout de faire porter le malade à l'hôpital, se fit payer le breuvage inoffensif dûment étiqueté, cacheté, enveloppé. Et Burton s'en alla plein de confiance dans la fiole qu'il emportait à Berry Street, car pour les hommes de cette classe qui croient à la médecine, tous les remèdes sont également efficaces. Pendant son absence, Wilson avait fait de son mieux pour calmer le pauvre malade, pour apaiser l'enfant qu'il avait fait manger et relever le courage de la mère par quelques bonnes paroles. Cherchant toujours si quelque ustensile oublié ne restait pas dans quelque coin de la cave, il avait trouvé une porte basse, l'avait ouverte et refermée presque aussitôt, suffoqué par l'odeur qui s'en échappa tout à coup. C'était une arrière-cave, où, d'un toit à port situé précisément au-dessus, tombaient sur le sol non pavé, les égouts qui se mêlaient à d'autres abominations plus répugnantes encore. Jamais personne ne l'avait habité, car pas un homme, encore moins un pourceau, n'y eût vécu deux jours. Et cependant, cet effroyable trou, pompeusement désigné sous le nom « menteur de seconde chambre », faisait une différence dans le prix du loyer qu'il augmentait de 6 sous par semaine. Quand il revint près de la cheminée où se trouvait Mistress Davenport, il vit l'enfant suspendu à la mamelle desséchée de sa mère. « Quel âge a-t-il donc ? » s'écria-t-il surpris. « Je le croyais bien sevré. » « Il a 2 ans, répondit-elle, et je sais qu'il pourrait l'être, mais ça le calme un peu quand on n'a rien à lui donner. Il s'endort plus facilement quand il est là, et les enfants, vous savez, on leur donne tout ce qu'on peut. Ne recevez-vous rien de la ville ? Rien du tout. Notre homme est natif du comté de Buckingham, et il a craint d'être envoyé dans sa paroisse s'il s'adressait au bureau pour en avoir des secours. Nous avons tout supporté dans l'espoir que l'ouvrage reprendrait. Mais c'est fini pour nous. Le bon temps ne reviendra pas. » Et les gémissements de la pauvre femme recommencèrent. « Allons, mangez le reste de cette bouillie et tâchez de dormir un peu. Vous pouvez être tranquille, nous veillerons sur votre homme. Que Dieu vous bénisse et vous protège. » Elle mangea et s'endormit du plus profond sommeil. Wilson ôta son habit pour en couvrir la pauvre mère, et tâcha de le faire le plus doucement possible, pour ne pas l'éveiller. Elle n'ouvrit pas les yeux, mais elle étendit instinctivement la main pour attirer l'habit sur son enfant, qu'elle tenait toujours étroitement embrassé. Davenport, après plusieurs accès de délire, qui avaient été jusqu'à la folie furieuse, s'était endormi à son tour, et les deux amis se rapprochant du feu, s'assirent par terre, éteignirent la chandelle, et causèrent à demi-voix. « Y a-t-il longtemps que tu la connais ?» demanda Burton, en parlant de Davenport. « Bientôt 3 ans, depuis qu'il travaillait à la fabrique Carson. Pauvre Ben, tout comme un agneau, rangé, honnête, toujours poli en vous parlant. Trop méthodiste, comme je te l'ai déjà dit, mais toute bonté. Je voudrais avoir la lettre qu'il avait écrite à sa femme, il y a 15 jours, pendant qu'il était en tournée pour chercher de l'ouvrage ailleurs. Je me rongeais un peu, comme tu penses, d'avoir tout à prendre sur le travail de Jem, et de le mettre au pain sec pour nous acheter de quoi vivre. Mais il faut bien manger, même quand on ne gagne rien. Je grommelais donc en me dépitant, quand Mistress Davenport m'apporta la lettre de son mari, parce qu'elle ne sait pas lire. Et ça m'a fait du bien. Tu aurais dit un chapitre de la Bible. Pas une plainte, rien que des paroles de soumission et d'amour pour le bon Dieu qui est notre Père, et dont il faut accepter la volonté divine. Ah, ça! Tu crois que nous sommes ses enfants, comme les patrons et les riches? Ma foi, tant pis, je serais fâché d'être le frère de nos maîtres. Ne dis pas cela, John. Il y en a d'aussi bons que nous, et peut-être de meilleurs. Nomme-les-moi, puisque tu les connais. Mais, je te le demande, comment se fait-il qu'ils s'enrichissent, et que nous restons si pauvres? Et tu trouves donc qu'ils agissent envers nous, comme ça se doit entre frères? Mais Wilson n'était pas orateur, et Burton continua. Tu me diras, comme beaucoup d'autres, qu'ils ont un capital, et que nous n'en avons pas. Je te réponds que notre travail est un vrai capital, qui doit nous rapporter tout aussi bien que le leur. Ils touchent leurs intérêts aujourd'hui comme hier, mais nous c'est différent. Pourquoi ça? Je te le demande. Si nos bras ne font plus rien, c'est que leur machine s'arrête. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux n'en avaient pas plus que pour nous, quand ils ont commencé. Les Carson, les Duncombe, les Mengis, et tant d'autres sont venus à Manchester, ne possédant que les habits qu'ils avaient sur le dos,
et ont à présent des centaines de mille francs, on dit même des millions, tout ça gagné par notre travail. Leurs terres, c'est la même chose. Ce qui valait 150 francs il y a 20 ans s'achète 1500 aujourd'hui. Toujours par l'effet du travail. Mais nous autres, toi comme moi, et tous ceux qui nous ressemblent, quel profit avons-nous? Ils nous ont pressurés, jusqu'à la dernière goutte, pour faire leur grosse fortune, bâtir leur grande maison, s'inquiétant peu de savoir si nous ne mourions pas de faim. Diras-tu que c'est justice? Pour ça, tu as raison, Burton. Mais j'ai vu le patron après l'incendie de la fabrique, et il m'a dit qu'il lui fallait regarder à la dépense, qu'il se retrancherait plusieurs choses, et serait gêné pendant tout le temps que les affaires iraient mal. Ainsi tu vois que les maîtres ont leur part de souffrance. Ont-ils jamais vu leur enfant, leur propre chair, mourir faute d'avoir à manger? Demanda Burton d'une voix sourde. Ce n'est pas que je vais me plaindre et parler pour moi-même, continua-t-il. Mais quand je vois des hommes comme Davenport mourir de faim malgré leur travail et leur conduite, je ne peux pas le supporter, et je ne me connais plus. La nuit fut longue et pénible au chevet du moribond, qui s'endormit pourtant lorsqu'arriva le matin, et quand la faible lueur qui traversait la fenêtre, ou plutôt le soupirail, vint annoncer enfin qu'il faisait jour au dehors, Wilson partit pour aller chercher le billet nécessaire à la translation de Davenport dans l'un des hôpitaux de la ville. L'hôtel qu'habitait Mr. Carson, situé dans le quartier neuf et presque à la campagne, était meublé non seulement avec un grand luxe, mais encore avec goût. Les galeries et les salons renfermaient de nombreux objets d'art, et lorsque Wilson traversa la cour, il aperçut par une fenêtre ouverte des tableaux et des dorures qui lui donnèrent envie de s'arrêter pour les voir. Mais il pensa que ce ne serait pas respectueux, et se dirigea en toute hâte vers la porte de la cuisine. Les domestiques, fort occupés de la préparation du déjeuner, ne firent pas grande attention à Wilson. Ils lui dirent néanmoins d'entrer, et l'invitèrent à s'asseoir, en attendant que Mr. Clarkson fût prévenu de son arrivée. L'ouvrier s'assit dans l'endroit où il se crut le moins gênant, regardant avec surprise les nombreux ustensiles appendus à la muraille, et s'amusant à deviner à quel usage tout cela pouvait servir. Tandis que le cuisinier préparait les beefsteaks, que le marmiton faisait rôtir le pain, mettait cuire les œufs frais, et que tout un monde de serviteurs allait et venait autour de lui. Le café chauffait doucement près du feu, exhalant, ainsi que tout le reste, un parfum si pénétrant que le pauvre Wilson, dont le jeûne absolu durait depuis le milieu du jour précédent, et qui ne s'était pas reposé depuis lors, sentit la faim se réveiller plus vive que jamais au fond de son estomac surexcité par toutes ces odeurs appétissantes. Il est certain que, si les gens qui l'entouraient l'avaient su, ils se seraient empressés de lui donner à manger. Mais, comme tout le monde, ils oubliaient, quand ils étaient rassasiés, que les autres pussent avoir faim, et sans se douter que cet homme si pâle était malade de besoin, ils se mirent à causer avec cette liberté de langage que l'office a toujours en parlant du salon. Quand vous êtes rentré tard la nuit dernière, Thomas, dit au cocher la femme de chambre, descendit tout exprès pour causer un instant. Ah, je vous en réponds, que j'étais las de les attendre. Ils m'avaient dit d'arriver à 8 heures, et je m'y trouve comme de raison. À 2 heures passées, je les attendais encore. Et vous êtes resté tout ce temps-là, dans la rue? Non, vraiment pas si bête. Vous pensez bien que je ne suis pas assez fou pour attraper la mort, ni faire crever mon attelage par le temps qu'il faisait. J'ai mis les chevaux à l'écurie du Grand Aigle, et je suis rentré dans la salle, où je me suis installé, un verre à côté de moi. C'est une bonne habitude que prennent tous les cochers. Nous étions 5 ou 6, attablés, tous ensemble. Un quart de bonne halle et du gin, qu'on se paye de l'un à l'autre. Ça préserve du froid, et c'est bon contre le rhume. Fi donc, Thomas, vous tournez à l'ivrogne. Ah, c'est possible, mais j'en suis pas la cause. C'est la faute à madame, bien plus que c'est de la mienne. On ne peut pas, quand on est de chair et d'os, crever de froid et de faim, pour attendre des gens qui ne savent jamais ce qu'ils veulent. Thomas, dit une autre femme de chambre qui entrait un instant, montez à cheval et courez jusqu'à la poissonnerie. Vous direz au poissonnier que madame ne veut pas payer le saumon plus de 3 francs la livre, et qu'il en faut pour mardi. Elle devient si regardante et si grognon depuis que le commerce va mal. Ensuite, vous attellerez à 3 heures pour aller au cours, vous savez. Connu, ma belle. Vous ferez bien de garder pour vous vos pchts et vos kchts,
parce que ce matin madame a la migraine et qu'elle n'est pas endurante. »
Quel dommage que Miss Jenkins ne soit pas là. Ça en ferait la dispute. À qui des deux a la plus belle migraine ?
Puis s'adressant au chef. Madame ne descendra pas pour déjeuner. Vous ferez monter chez elle la perdrix froide qui est restée hier. Vous mettrez beaucoup de crème dans son café. Tenez-le bien chaud. Et que le petit pain soit surtout bien beurré.
Ce qu'ayant dit, la femme de chambre sortit bien vite pour se tenir prête au premier appel des jeunes miss qui n'avaient pas encore sonné, s'étant couchées fort tard, comme on l'a vu plus haut. Les deux messieurs Carson déjeunaient dans la bibliothèque et savouraient lentement l'excellent repas qui leur était servi, lisant chacun de son côté, le fils une revue, le père un journal. Celui-ci était un beau vieillard, à l'air un peu trop content de lui, mais dont les manières ouvertes prédisposaient en sa faveur. Le fils, plein de grâce et d'élégance et d'une beauté remarquable, était loin de l'ignorer. Seul garçon de la famille et l'idole de ses sœurs, il faisait l'orgueil de son père et de sa mère, et trop bien élevé pour contredire l'opinion de ses parents, il était fier de lui-même et le montrait sans réserve. Tout à coup la porte s'ouvrit, et la plus jeune des trois sœurs entra joyeusement, suivant son habitude, et fut en de bons arrivés près de la table. Ravissante jeune fille de 16 ans, fraîche comme un bouton de rose, légère comme un oiseau, Amy n'allait pas encore dans le monde, à la grande joie de son père qui la gardait près de lui toute la soirée, l'écoutait rire et chanter, et la retrouvait au matin prête à partager son déjeuner, tandis que ses sœurs, fatiguées des plaisirs de la nuit, dormaient encore ou n'étaient pas habillées. Elle couvrit son père de baisers, lui enleva son journal, et ne voulut pas qu'Henry continuât sa lecture.
« Je suis la seule femme que vous ayez ce matin, et dès lors, j'ai droit à vos plus grands égards. »«
Mais il me semble, mignonne, que, seule ou non, tu te fais généralement assez bien obéir. »«
Par vous, petit père, qui êtes bien bon et bien obéissant. Mais Henry, quelle différence, et quel vilain méchant, qui ne fait jamais ce que je lui demande. »« Est-ce vrai, monsieur Henry ?»«
Je ne sais vraiment pas de quoi tu m'accuses, je croyais au contraire mériter des éloges. » N'est-ce pas moi qui ai rapporté l'eau du Portugal qu'on ne trouvait pas chez Hughes, moi qui tout seul y ai pensé, petite ingrate?
Vraiment, cher Henry, tu es aussi adorable que l'eau de Portugal elle-même, presque aussi bon que papa. Et cependant, tu es allé chez Bingland, et tu as oublié de lui demander cette nouvelle rose dont il m'avait parlé.
Pas le moins du monde, je ne l'ai pas oublié, mais sais-tu, folle exigeante, que la plus petite de ces roses coûte une demi-guinée?
Et que m'importe? Je la demanderai à papa qui me la donnera tout de suite. »
Mr. Carson essayait de refuser, mais la charmante enfant mit tant de grâce dans ses caresses, tant de force dans ses arguments, qu'il finit par céder. Elle adorait les roses.
« Hé, papa, tu sais bien que je ne peux pas être sans fleurs. Que serait la vie sans elles ?»«
Alors, prends des pivoines, des oreilles d'ours. Ce serait moins cher et tu en aurais davantage, » lui dit Henry.
« Quelle abomination! Appelles-tu ça des fleurs? Un gros pompon sans parfum? D'ailleurs, qui de nous deux est le plus fou? Et quel est le méchant frère qui a bien su donner une couronne l'autre semaine pour quelques branches de muguet que sa petite sœur lui a demandé à genoux et qui lui a refusé? Répondez à cela, monsieur Hall, et ne me faites pas attendre. »
« Je ne réponds jamais quand on l'exige, » dit Henry, dont les lèvres souriaient, mais dont le regard exprimait l'impatience.
« Un ouvrier du nom de Wilson demande à parler à monsieur, » dit un domestique en entrant.
« Je suis à lui tout à l'heure. Non, faites-le monter. J'aime mieux l'entendre ici. »
Amy avait quitté la bibliothèque pour aller dans la serre avant qu'on y introduisît le tisseur, qui, pâle et décharné, la barbe longue, les vêtements en désordre et souillés de boue, la figure et les mains non lavées, restait d'un air embarrassé sur le seuil de la porte, et jetait un regard furtif sur cette galerie splendide où il n'osait entrer.
« Eh bien, Wilson, quelle est l'affaire qui vous amène ?» demanda Mr. Carson d'une voix encourageante.
« C'est Davenport, monsieur, qui a la fièvre, et je viens savoir si vous auriez un billet à lui donner pour qu'il entre à l'hôpital. »
« Davenport, Daven, je ne connais pas ce nom-là.
Il travaillait depuis 3 ans, dans votre manufacture et... »
C'est possible. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les hommes que j'emploie. Ça regarde les contremaîtres. »
Vous dites donc que ce Davenport est malade.
Ah, monsieur, il est bien malade encore. Il faudrait le faire rentrer tout de suite à l'hospice des fiévreux.
Alors, je ne sais pas s'il me reste encore un billet d'admission, mais je puis vous en donner un pour qu'il ait des secours et des soins à domicile. Je souhaite qu'il s'en trouve bien. »
Et se levant aussitôt, Mr. Clarkson ouvrit un tiroir, y chercha un instant et donna à Wilson le billet de secours dont il avait parlé. Henry, qui venait de finir sa lecture, entendant par hasard ce dont il s'agissait, se leva pour sortir, et quand il passa devant le tisseur, il lui donna 5 shillings pour le pauvre malade. Il descendit lestement, fit avancer son cheval qu'un jockey tenait en main, se mit en selle et partit gaiement, n'ayant d'autre inquiétude que d'arriver trop tard pour recevoir au passage le sourire de la belle Mary Burton à l'heure où celle-ci allait à l'atelier. Wilson quitta l'hôtel, sans savoir s'il avait lieu d'être content ou fâché. Tout le monde y avait été pour lui d'une politesse bienveillante. Peut-être Mr. Clarkson prendrait-il des renseignements sur la position de Davenport, et dans ce cas-là, il ne manquerait pas de faire quelque chose pour la pauvre famille. D'ailleurs, le cuisinier, quand il avait eu le temps de le remarquer, s'était aperçu de la pâleur de Wilson, et avait préparé du pain et de la viande qu'il glissa dans la poche de l'ouvrier au moment où celui-ci descendait du salon. Et rien ne dispose à l'espérance comme un estomac bien rempli. Quand Wilson entra dans Berry Street, il était persuadé qu'il apportait de bonnes nouvelles et arrivait tout joyeux, hâtant sa marche pour les donner plus tôt à ceux qui l'attendaient. Mais en ouvrant la porte de la cave, tout espoir s'évanouit. « Approche un peu, » lui dit Burton. « Ne trouves-tu pas qu'il a bien changé ? Toi qui ne l'as pas vu depuis quelque temps. » Le visage du moribond s'était encore amaigri. Ses traits, plus fortement accusés, avaient pris un caractère plus rigide, osseux en quelque sorte, et une teinte cadavéreuse s'étendait sur tout son corps. Sa femme était près de lui, tenant son enfant étroitement serré contre son cœur, tâchant d'apaiser les pleurs du pauvre petit, et comprimant elle-même ses sanglots, dans la crainte de troubler son mari qui restait immobile, ne paraissant rien voir, et sans doute ne pouvant plus parler. Tout à coup, cependant, il joignit les mains par un suprême effort, et ces quelques mots, à peine articulés, s'échappèrent de ses lèvres.
« Merci, mon Dieu, de permettre que j'en finisse avec une vie si dure. »«
Oh, Ben !» s'écria la pauvre femme, « tu ne penses donc pas à moi ? Je t'en prie, un mot seulement qui m'aide à vivre pour soigner nos enfants. »
Pour toute réponse, sa main défaillante s'agita faiblement, cherchant quelqu'un autour de lui. Les deux amis prirent cette main mourante et la posèrent sur la tête de la pauvre femme, prosternée jusqu'à terre. Une légère pression témoigna de la dernière pensée de Ben. Un rayon sublime vint éclairer son visage. Un calme céleste se répandit sur ses traits. Sa main s'apesantait sur la tête de l'épouse désolée. Quant à lui, nulle douleur ne pouvait plus l'atteindre. Quelques instants après, Mary Burton entra, son père lui ayant fait dire par une voisine l'endroit où il était. « Viens, enfant, lui dit Burton, et tâche de consoler cette pauvre femme qui se trouve seule à présent sur la terre. » Mary s'agenouilla auprès de Mistress Davenport, oubliant l'atelier, tout ce qu'elle avait à faire, jusqu'au rendez-vous qu'elle avait pris avec Henry Carson, et tournant vers la pauvre femme éplorée son angélique regard. Elle lui dit de sa voix harmonieuse et sympathique,
« Ne vous désolez pas, il est maintenant dans un monde où rien ne le fera souffrir. Je sais bien que vous serez toute seule, et pourtant songez à vos enfants, nous vous aiderons à les nourrir. Pensez au chagrin qu'il aurait s'il vous voyait si affligé. Calmez-vous, ne pleurez pas. »
Et les larmes étouffèrent la voix de Mary, dont les sanglots se mêlèrent à ceux de la pauvre veuve. Quand la première émotion fut passée, elle offrit à Mistress Davenport de l'emmener chez son père avec le petit enfant, mais celle-ci ne voulut pas consentir à quitter les restes de Ben. On veilla donc à ce que rien ne lui manquât. Une voisine se chargea de venir voir de temps en temps comment elle se trouvait. Burton et sa fille se dirigèrent vers l'endroit où ils avaient leur ouvrage, et Wilson, qui était sans travail, s'occupa de toutes les formalités relatives à l'enterrement. Lorsque Mary arriva chez Miss Simmons,
Elle trouva celle-ci furieuse du retard qu'elle avait mis à lui rapporter certains morceaux de mousseline et quelques mètres de ruban dont elle n'avait pas même songé à faire l'acquisition. Elle était trop occupée de savoir comment elle s'y prendrait pour allonger sa robe noire. Encore très propre, une fois qu'elle serait retournée de manière qu'elle pût servir à Mistress Davenport. Elle réussit probablement dans cette entreprise à laquelle toute sa nuit fut consacrée. Car, le jour des funérailles, la veuve y assistait convenablement vêtue de deuil, satisfaction inespérée au milieu de sa douleur. Wilson et Burton l'accompagnaient avec ses deux aînés, et l'humble convoi prit à pied le chemin qui conduit au cimetière, plus décent dans sa marche que le pompeux cortège dont se fait suivre la dépouille du riche. Arrivés au champ de repos, ils s'arrêtèrent devant une pierre sépulcrale, ou plutôt devant un simulacre de pierre, tout simplement une planche décorée comme les tombes qu'on voyait auprès d'elle, et qui recouvrait l'endroit où le corps du pauvre va rejoindre celui des pauvres comme lui, entassés pêle-mêle dans cette fosse commune, à 40 ou 50 centimètres de profondeur. Quand la terre fut retombée sur le cercueil, et que les pieds du fossoyeur l'eurent foulé de manière à en égaliser la surface, le couvercle tombal fut porté sur un trou voisin, pour y jouer le même cérémonial dérisoire. Mais qu'importait à ceux qui venaient de rendre à la terre la dépouille de celui qu'ils pleuraient sincèrement.